Marché en main, l'économie mondiale à la portée de chacun.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Maliba FM, bonjour. Ici Quentin Brachet, journaliste de Spoutnik Afrique et animateur de votre émission Marché en main, qui vous apporte des éléments de compréhension de l'économie mondiale. Dans cette édition, nous reviendrons sur la décision retentissante du Burkina, du Mali et du Niger, qui se sont regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, de quitter simultanément et avec effet immédiat la CEDEAO. Quel sera l'impact de ce choix historique pour l'économie de la région et sur le destin de l'organisation régionale ouest-africaine? Pour répondre, j'aurai l'honneur de recevoir Modibo Mahom Makalou, économiste et gestionnaire financier malien. Avec lui, nous éclaircirons les raisons de ce divorce, ses conséquences, ainsi que les perspectives de ce choix, aussi bien du point de vue de l'AES que du point de vue de la CEDEAO. A tout de suite sur Maliba FM. Le 28 janvier dernier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé leur décision commune de quitter la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sans délai. Les trois pays se sont rassemblés au sein de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, en septembre 2023, avec comme priorité d'assurer leur sécurité aussi bien contre les menaces intérieures qu'extérieures. Ce départ des pays de l'AES porte un coût non négligeable à la CEDEAO, puisque le Burkina, le Mali et le Niger représentent 70 millions d'habitants sur les 440 millions que comptait l'organisation et surtout 2 800 000 km² de superficie sur les un peu plus de 5 millions que comptait la communauté. Et dans le contexte de la crise au Sénégal, où les élections présidentielles ont été reportées, l'existence même de l'organisation pourrait être remise en cause. Pourquoi la CEDEAO n'a-t-elle pas répondu aux attentes des pays de l'AES et quels modèles d'intégration alternative peuvent-ils offrir? Pour discuter de ces questions, je reçois Modibo Mahom Makalou, économiste et gestionnaire financier malien. Les tensions entre la CEDEAO et les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina, le Mali et le Niger, ont entraîné le départ de ces derniers. Les objectifs de la CEDEAO n'étaient-ils pas au contraire de renforcer la coopération et l'intégration régionale?
En effet, vous savez, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été créée il y a presque 50 ans, le 28 mai 1975, par le traité de Lagos, c'est-à-dire au Nigeria, la ville de Lagos au Nigeria. Et l'objectif au départ, c'était 16 pays d'Afrique de l'Ouest, mais maintenant, vous savez que la Mauritanie s'est retirée et maintenant, la Mauritanie demande à réintégrer. Mais pour le moment, elle a un statut particulier avec la CEDEAO. Elle a signé des accords avec la CEDEAO pour pouvoir quand même bénéficier des mêmes privilèges que les pays membres. Et donc, l'objectif même de la CEDEAO, c'était quand même de promouvoir l'intégration économique et monétaire, qui comprend 5 étapes. Et ça commence évidemment par la zone de libre-échange. Mais en ce moment, nous sommes au niveau du marché commun, c'est-à-dire que non seulement nous avons une union douanière, c'est-à-dire la baisse des tarifs tarifaires et non tarifaires entre les 15 membres, mais en plus, maintenant, il y a un tarif extérieur commun pour les non-membres que les pays de la CEDEAO appliquent aux pays qui sont pas membres de la CEDEAO. Donc, comme vous le dites, en effet, l'objectif, c'était de promouvoir la libre circulation des personnes, des biens, des facteurs de production, mais aussi que les professions libérales puissent s'installer librement au sein de l'espace. Et donc, c'est cela qui a été compromis par les sanctions qui ont été prises à l'encontre des différents pays membres en fonction des différents protocoles qui ont été signés à partir de 91 et ainsi que dans le traité révisé de la CEDEAO de 2003. Tout cela, qui a comprend non seulement des sanctions politiques, des sanctions diplomatiques, des sanctions commerciales, mais aussi des sanctions financières. Donc, tout cela a quand même beaucoup réduit la progression de l'intégration économique au sein de la CEDEAO, parce que quand vous fermez les frontières d'un pays, évidemment, vous empêchez la libre circulation des personnes, non seulement de cet État vers d'autres États, mais membres du regroupement, mais aussi des membres, des ressortissants des États membres aussi vers le pays qui est sanctionné. Donc, cela a été très dommageable par rapport au progrès fait par la CEDEAO, qui, je rappelle, est quand même une communauté économique régionale géographique de l'Union africaine. Et comme vous le savez, il y a 5 communautés économiques, régionales, géographiques au sein de l'Union africaine, dont celle de l'Afrique de l'Ouest, c'est la CEDEAO, qui regroupe 15 pays jusqu'au 29 janvier 2024, quand 3 pays, le Mali, le Burkina et le Niger, ont demandé leur retrait de cette organisation avec effet immédiat.
Et donc, le ministre burkinabé en charge de l'économie et des finances, Aboubakar Nakanabo, a estimé que la CEDEAO allait perdre au moins 45 milliards de francs CFA par an avec le départ groupé. La CEDEAO peut-elle survivre au départ de ces 3 pays du Sahel qui représentent au total 70 millions d'habitants?
Vous savez, les 3 pays qui de l'Alliance des États du Sahel, que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, constituent 54% de la superficie de la CEDEAO. Et constitue aussi 17% de la population de la CEDEAO et un peu moins de 10% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse de la CEDEAO. Mais ces 3 pays sont des pays continentaux, donc qui n'ont pas de débouchés sur la mer, mais ce sont des vastes pays, c'est-à-dire que, évidemment, si vous prenez la population de la CEDEAO et la superficie, ces 3 pays ont un rôle très important parce que, vous savez, le commerce intra-régional est fait de sorte que ces pays passent à travers les pays côtiers membres de la CEDEAO. Et maintenant, n'oublions pas non plus que ces 3 pays sahéliens de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, aussi sont membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, donc qui regroupe 8 pays en Afrique de l'Ouest qui ont en partage le franc CFA. Donc, tous les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont aussi membres de la CEDEAO. Donc, le fait que les 3 pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, se retirent de la CEDEAO, fait que ces pays, dès que la sortie sera hâtée, ne vont continuer à être membres quand même de l'UEMOA. Ça veut dire que, évidemment, ça, l'UEMOA aussi est une union économique et monétaire ouest-africaine, où il y a l'élimination des barrières tarifaires et non tarifaires, et aussi il y a en commun, ces 8 pays ont en commun une monnaie unique qu'on appelle le franc CFA. Donc évidemment, le retrait de ces pays va beaucoup jouer sur la CEDEAO, qui ne va regrouper que des pays côtiers, et vous savez que les pays côtiers, si vous prenez le Nigeria, quand même, c'est le premier partenaire du Niger, mais aussi si vous prenez le port de Cotonou qui marche essentiellement sur les importations du Niger, mais aussi si vous prenez le port d'Abidjan ou le port de Tema au Ghana, évidemment les importations, l'économie ghanéenne de ces deux ports quand même travaillent beaucoup avec les Burkinabés. Et donc, si les Burkinabés ne s'approvisionnent plus à travers le Ghana et la Côte d'Ivoire, je pense que ça va causer des problèmes au niveau de ces différents ports, et aussi le port de Dakar, où le Mali qui est le port où le Mali a le plus d'activité, environ 70% des importations et des exportations du Mali passent par le port de Dakar, qui est le principal client du port de Dakar. C'est-à-dire les opérateurs économiques maliens sont les principaux clients du port de Dakar. Donc il y aura des impacts de part et d'autre parce que évidemment non, ça peut engendrer des coûts parce que si on ne doit pas passer par les ports habituels, évidemment il faut des alternatives, il faut d'autres scénarios qui peuvent être plus coûteux, mais aussi qui peuvent être aussi offrir d'autres avantages. Mais il va falloir faire quand même une étude d'évaluation assez sérieuse pour évaluer les coûts et les bénéfices du retrait de ces 3 pays de la CEDEAO.
Justement, dans la continuité, il y a la Guinée qui est aussi suspendue de la CEDEAO, comme l'était le Burkina, le Mali et le Niger. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la Guinée devienne le premier État côtier justement de la CEDEAO à quitter l'organisation?
Oui, mais la Guinée n'a pas souligné son retrait de la CEDEAO avec effet immédiat pour le moment. Mais je pense que déjà le Mali, quand même, après les sanctions de la CEDEAO, avait quand même beaucoup amélioré, avait beaucoup diversifié ses sources d'approvisionnement et notamment en utilisant le port de Nouakchott et aussi le port de Conakry. Donc, comme vous le dites, ces quatre pays, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et le Niger, évidemment, sont des pays qui sont en train de tenir, en fait, qui avaient des discussions avec la CEDEAO. Trois pays ont décidé de quitter, mais je pense que ces trois pays aussi peuvent travailler avec la Guinée, mais avec d'autres pays aussi qui sont membres de la CEDEAO, qui, je pense notamment au Togo pour le Niger, et je pense aussi que le Burkina aussi peut travailler avec d'autres pays. En tout cas, je pense que c'est une nouvelle redistribution des cartes qui peut se faire au niveau de l'espace de l'Afrique de l'Ouest sur le plan non seulement politique, mais aussi sur le plan économique et financier.
Les ministres de l'économie du Burkina et du Mali ont indiqué que leurs pays récupéreront respectivement 15 milliards et 21 milliards de francs CFA de prélèvements communautaires. Dans le cas du Burkina Faso, l'économie burkinabé ne dépendait qu'à 14% de la CEDEAO pour ses exportations et à 26% pour ses importations, essentiellement via le Ghana. Est-ce qu'on peut dire que les trois pays ont en fait tout à gagner en sortant de la CEDEAO ?
Non, comme je vous l'ai dit, il faut faire une analyse assez sérieuse, assez approfondie sur les coûts et les bénéfices de la sortie de la CEDEAO de ces trois pays. Mais vous savez, l'intégration économique et monétaire offre des avantages et des inconvénients. Il y a des objectifs qui sont fixés, mais il y a beaucoup de défis à relever, notamment le défi du tarif extérieur commun qui est posé. Évidemment, ces trois pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, sont des économies extrêmement ouvertes. Plus de 60% de leur produit intérieur brut, de leur richesse nationale, dépend du commerce international, c'est-à-dire des biens et des services qu'ils vendent à l'extérieur, mais aussi des biens et des services qu'ils achètent à l'extérieur. Donc, cela fait que c'est des pays dépendants du commerce international. Et évidemment, ces pays doivent s'adapter aux différents chocs qui résultent du commerce international, y compris cette sortie de la CEDEAO. Et donc, il va falloir trouver, comme je l'ai dit, des alternatives. Mais les montants qui ont été suggérés me paraissent assez faibles. Je pense que les enjeux sont beaucoup plus importants que cela, parce que, comme vous le savez, ces trois pays sont des économies quand même qui extraverties. Si vous prenez l'uranium, le Niger est quand même le troisième producteur africain d'uranium et aussi nouveau producteur de pétrole et exportateur de pétrole. Si vous prenez le Burkina et le Mali, c'est respectivement troisième et quatrième producteur d'or en Afrique et premier et troisième producteur de coton en Afrique. Ainsi, mais aussi ce sont des grands pays agro-silvo-pastoraux parce que l'agriculture, le développement rural joue une place importante dans ces trois pays. Évidemment, ces pays ont décidé d'aller à travers l'Alliance des États du Sahel, mais non seulement sur le plan politique, vers une confédération. Ça veut dire que chaque structure, chaque pays va garder ses structures politiques. Mais il y aura une plus grande harmonisation, une plus grande concertation entre ces pays sur le plan politique et économique. Et ces trois pays ont aussi décidé d'aller vers une intégration économique et monétaire qui, comme je l'ai rappelé à l'entame de ce webinaire, de ce podcast, vont aller non seulement de l'union douanière, mais jusqu'à peut-être avoir une monnaie commune ou une monnaie unique. Mais nous n'en sommes pas là encore parce que l'union monétaire est la dernière et cinquième étape de l'intégration économique et monétaire.
Vous parliez du fait que c'était trois pays qui sont à l'intérieur des terres. Pour désenclaver les trois pays, est-ce que ce ne serait pas dans leur intérêt de signer des accords individuels avec chaque État en dehors de la CEDEAO ?
Vous savez, l'intégration, je ne peux pas vous le dire comme ça parce qu'il faut qu'on ait vraiment toutes les données sur le commerce intra-CEDEAO, mais aussi le commerce extérieur de ces trois États. Parce que à partir du moment où ces trois États vont créer un espace d'intégration économique et monétaire, ces États vont appliquer un tarif extérieur commun aux États non membres. Mais comme ces États sont membres de l'UEMOA, cela ne va pas s'appliquer aux États de l'UEMOA. Et vous savez que les États de l'UEMOA ont des ports, je parle, en l'occurrence, je parle du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin, qui peuvent bénéficier aux États de l'AES. Donc, maintenant, la problématique, grande problématique, à mon avis, la sortie de la CEDEAO devient effective pour les trois pays de l'AES, les défis concernent surtout le Niger, qui a une longue frontière avec le Nigeria, qui est quand même la première puissance économique africaine et aussi de la CEDEAO. Et vous savez que le Niger partage environ 1400 kilomètres de frontière avec le Niger. Le Niger partage 1400 kilomètres de frontière avec le Nigeria. Donc, il y a beaucoup d'échanges formels et informels, mais je pense que les échanges informels aussi vont continuer. Mais je pense que dans tout cela, nous sous-estimons beaucoup l'économie formelle dans les chiffres que nous allons citer. Mais en réalité, je pense que les populations ne vont pas s'arrêter aux frontières parce que ce sont des frontières artificielles. Je pense que le commerce frontalier va continuer à prospérer. Si on n'encourage pas le commerce formel, le commerce informel va prospérer. Le sous-regroupement au niveau de la CEDEAO est très important, comme je vous l'ai dit, parce que nous sommes dans une dynamique aussi de la zone de libre-échange continentale pour aller vers une union douanière africaine avec 1,4 milliard de consommateurs. Mais je pense que les pays doivent voir quels sont les avantages et les inconvénients qu'ils tirent des différents regroupements. Et je pense que les pays de l'AES doivent, je pense qu'il y a un comité d'experts qui est en train de réfléchir, en tout cas d'étudier les différentes alternatives et des coûts et des bénéfices du retrait et aussi des possibles nouveaux partenariats qui peuvent être établis.
Mmh. Vous avez donc rappelé que l'Alliance des États du Sahel voulait aussi de la coopération économique, mais à l'origine, c'était plutôt pour une vocation sécuritaire. Et en fait, est-ce que d'un point de vue économique, la priorité pour le Burkina, le Mali et le Niger, ce n'est pas justement de rétablir l'ordre, la sécurité pour revenir à une économie normale ?
Oui, vous savez, moi, j'ai toujours prôné cette coopération sous-régionale et régionale et internationale. Mais vous savez, j'ai aussi beaucoup encouragé que le renforcement de la coopération sous-régionale à travers l'autorité de développement intégré du Niptako-Gourma, qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette organisation existe depuis plus de 50 ans, mais depuis 2017, quand même, elle avait ajouté un volet sécuritaire qui s'est beaucoup renforcé ces derniers temps après le départ de la mission des Nations Unies qui était au Mali pour la stabilisation au Mali qui est parti et donc maintenant ces trois pays ont quand même renforcé la coopération transfrontalière et la coopération de défense et de sécurité et je pense que évidemment cela ne peut pas se faire sans sans le parrainage politique et je pense que c'est la base de cela que non seulement il y a le parrainage politique mais maintenant la politique de défense et de sécurité est harmonisée parce que je vous ai dit ces trois pays font environ 2 800 000 km2 si on prend cet espace le plus grand pays quand même de l'Afrique, l'Algérie faisant à peu près un peu plus de 2 400 000 km2, étant le plus vaste pays d'Afrique pour le moment. Donc les frontières sont poreuses, les populations aussi évidemment de ces trois pays il y a une partie non semi-désertique évidemment qui est faiblement habitée. Donc cela pose aussi des problèmes et c'est là aussi que les groupes armés terroristes ont choisi comme terrain de prédilection de s'installer dans des zones semi-arides, mais et aussi de profiter pour se déplacer d'un pays à l'autre. Et donc en renforçant leur coopération sous-régionale, évidemment, je pense que ça a été une belle réussite et une belle initiative qu'il faut renforcer maintenant aussi sur le plan économique. Parce que les défis de ces trois États sont différents des défis des États côtiers. Je vous ai parlé du climat semi-aride, mais aussi ces pays font aussi face à des problèmes de défis socio-économiques. Parce que si vous regardez l'indice de développement humain de ces trois pays, il y a non seulement les revenus qui sont faibles, parce que ces pays transforment très peu au sein de leur économie, Et ces pays ont des faibles taux de scolarité et des faibles taux d'accès aux services de santé. Mais comme vous l'avez dit au début de votre question, il faut d'abord relever le défi de la sécurité et de la défense et de la paix d'abord. Parce que il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement sans paix et sécurité. Mais je pense que tout doit se faire concomitamment. On doit non seulement résoudre les problèmes de défense et de sécurité, mais on doit aussi résoudre les problèmes socio-économiques en même temps, car il y va du bien-être des populations.
Tout à l'heure, vous parliez de la coopération entre le Niger et le Nigeria. Est-ce que le fait que le Niger quitte la CDAO va remettre en cause le projet de gazoduc transsaharien du Nigeria?
Ce projet, c'est un projet pharaonique. Si le Niger, je pense que cela va beaucoup affecter non seulement, mais c'est surtout les pays européens qui vont bénéficier de ce gazoduc, qui seront les plus affectés, parce que comme vous le savez, ces pays étaient en grande partie approvisionnés, surtout l'Italie et l'Allemagne sont approvisionnés par le gaz russe. Et comme ces pays, l'Union européenne a imposé des sanctions sur l'achat du gaz russe, maintenant les pays européens ont essayé de diversifier leurs sources d'approvisionnement, et ce projet de gazoduc qui est très important. Et évidemment, cela va quand même compromettre en tout cas les investissements dans cette, parce que le Nigeria a beaucoup misé sur ce gazoduc qui peut profiter aussi au Niger avec les droits de transit, mais surtout ceux qui sont les principaux bénéficiaires, c'est ceux que les pays européens qui voulaient diversifier leurs sources d'approvisionnement. Donc je pense que le Niger tient une bonne carte en main pour toute négociation, non seulement avec la CEDEAO mais aussi avec l'Union européenne.
De manière plus générale, est-ce que l'Alliance des États du Sahel a pour objectif sur le long terme de concurrencer la CEDEAO?
Non, moi, personnellement, je voyais l'AES à l'intérieur de la CEDEAO. Parce que vous savez, la CEDEAO, c'est depuis 50 ans. L'année prochaine, on va fêter les 50 ans de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je voyais l'AES se mouvoir à l'intérieur de la CEDEAO. Mais vous savez, les défis auxquels ces trois États, je vous ai dit que ces trois États ont plus de points communs que de différences. Parce que les économies sont similaires. Et aussi, les défis sociaux, sécuritaires sont les mêmes aussi. Mais malheureusement, le regroupement qui englobait ces trois pays au niveau de la sous-région, en dehors de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'était la CEDEAO. Et la CEDEAO, c'est elle qui avait vocation à mettre en place une force d'attente et d'appuyer ces pays au niveau des défis. Et moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que quand même 12 des 15 pays de la CEDEAO se sont retrouvés au sein de la mission des Nations Unies au Mali. Mais la CEDEAO, en tant que telle, même si elle avait envoyé une faible mission, une petite mission au Mali, n'a pas fait grand-chose pour aider le Mali au début de la crise en 2012. Et c'est à partir de là que vraiment le problème de lutte contre les groupes terroristes se sont métastasés dans tout le Sahel, d'abord vers le Burkina, ensuite vers le Niger. Hormis ce qui s'est passé au niveau du lac Tchad avec les problèmes de Boko Haram avec la frontière au Nigeria. Donc, si la CEDEAO avait prévenu, avait quand même agi en amont par rapport à la crise malienne, je pense qu'on n'aurait pas eu ce problème. Donc, ces pays se sont sentis abandonnés. Je comprends ce sentiment de frustration. Et, disons-le, la CEDEAO a failli sur le plan sécuritaire pour aider ces trois pays à surmonter les difficultés auxquelles il faisait face. Donc maintenant, la question sur le plan économique, évidemment, vous savez que dans l'intégration économique, il y a des gagnants et des perdants. Et généralement, les pays qui sont des pays côtiers sont ceux qui profitent le plus de l'intégration économique. Encore là, encore faut-il, selon moi, faire une étude approfondie sur les coûts et les bénéfices de l'intégration économique. Parce qu'il doit avoir des compensations aussi, parce que ce doit être un système gagnant-gagnant. Ceux qui on tire le plus de profit de l'intégration économique, doivent aider ceux qui profitent le moins de l'intégration économique. Et généralement, les pays enclavés sont ceux qui profitent le moins. Mais encore faut-il que tout cela soit factuel, sous-tendu par des études menées pour quand même confirmer effet.
Et donc, est-ce qu'on peut imaginer une réconciliation entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO, par exemple, au sommet de l'Union africaine qui va arriver les 17 et 18 février?
Vous savez, il y a eu ce jeudi 8 février 2024 une réunion du comité de médiation et de sécurité de la CEDEAO et qui a, dans son communiqué final, quand même laissé la porte entrouverte au dialogue, qui a tendu la main aux pays de l'AES, aux trois pays de l'AES. Est-ce que cette main est la bienvenue? Les jours à venir vont nous édifier. Je pense qu'il y a des démarchages en cours. Je pense qu'il y a des projets de négociation en cours pour que ces trois pays ne quittent pas la CEDEAO, que l'unité de la CEDEAO soit préservée. Mais ça va dépendre de ce qui sera sur la table. Et je pense que non seulement on parle de des problèmes politiques, des problèmes de chronogramme de transition, mais aussi des problèmes de sécurité, mais aussi des problèmes économiques. Donc, il va falloir attendre pour voir un peu ce qui va se passer avec le sommet des chefs d'État qui est convoqué, parce que vous savez que la conférence des chefs d'État et de gouvernement est la plus haute instance et l'instance de décision de la CEDEAO. Et c'est elle qui est habilitée à prendre des décisions fortes. Et évidemment, si la décision de quitter la CEDEAO est actée, évidemment, ça sera un coup dur pour l'intégration économique en Afrique de l'Ouest, notamment au sein de la CEDEAO.
Oui, parce que normalement, la procédure de la CEDEAO prévoit, je crois, un an de procédure pour sortir de l'organisation, c'est ça?
Oui, c'est ce que l'article 91 du traité révisé de la CEDEAO dit, mais je pense qu'il y a eu une réponse des trois pays pour dire que effet immédiat, ça veut dire, parce que la lettre du 9 janvier exprimait quand même, la lettre qui a été envoyée à la CEDEAO exprimait quand même le retrait avec effet immédiat. Cela a été réitéré encore par les pays. Mais vous savez, nous sommes en politique et la politique, c'est l'art de la négociation. Et je pense que si les gens arrivent à se mettre à table et arrivent à se comprendre, je pense que des pistes de solutions pourraient se dégager. Mais il va falloir observer très attentivement ce qui va se passer parce que je pense qu'il y a des griefs qui ont été énoncés et il va falloir que la CEDEAO quand même fasse son mea culpa. Parce que elle s'est beaucoup dispersée et elle s'est beaucoup éloignée de son mandat initial qui était l'intégration économique et monétaire pour aller vers un terrain beaucoup plus politique, se donner un mandat beaucoup plus politique. Et comme c'est une organisation supranationale, évidemment, les traités ont été signés par les chefs d'État à l'époque et puis entérinés par les parlements. Évidemment, la procédure de sortie parle d'une année, mais évidemment, il y a certaines sanctions qui ont été prises par la CEDEAO qui faisaient pas partie de ce qu'on avait l'habitude de voir comme sanctions et qui concernaient la fermeture des frontières. Et par exemple, le fait de priver le Niger d'électricité aujourd'hui, ça n'affecte pas les dirigeants du Niger, ça affecte les populations du Niger, ça affecte l'économie nigérienne. Parce que vous savez, l'électricité, l'énergie, l'accès à l'énergie est la base de tout et a une corrélation positive avec la croissance du PIB. Donc, si vous n'avez pas accès à l'énergie, évidemment, vous risquez d'aller vers une récession, sans compter même les aspects sécuritaires de l'accès à l'énergie. Donc, je pense que ce n'est pas dans le mandat d'une organisation d'intégration d'aller aussi loin. Et je pense que, évidemment, si le dialogue avait prévalu, je pense que on aurait pu prendre peut-être des sanctions ciblées. Mais il ne s'agit pas de punir les populations pour ce qu'elles n'ont pas fait ou pour ce qu'on reproche à ces pays ou aux dirigeants. Il ne faut pas que ce soit les populations qui payent pour cela. Ce n'est pas le rôle d'une organisation d'intégration économique et monétaire.
C'était Modibo Mahomakalou, économiste et gestionnaire financier malien. Grâce à lui, nous avons pu apporter des éléments de réponse sur les conséquences du départ des pays de l'AES de la CEDEAO, ainsi que sur les perspectives de nouvelles coopérations dans la région. Ainsi s'achève cette édition de Marché en main de Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Maliba FM à Bamako. Nous nous retrouverons prochainement pour d'autres entretiens d'experts et suivre l'actualité de l'économie mondiale. D'ici là, bonne journée et bonne écoute.